arrière.
Allez, Emilia, allez, c'est bien. C'est bien, Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière.
Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis.
Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezen, c'est la folie dans les tribunes.
C'était un Martin pêcheur, et bien là, c'est un Martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos.
Magnifique, époustouflant champion.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Aujourd'hui, nouvel épisode et donc nouvel invité. Hein. Après Eric Perrault, nous restons du côté de l'équipe de France masculine. Il a pris part à sa première course de Coupe du Monde cet hiver, c'était du côté de RuPauling. Aussi ses premières courses en IBU Cup, mais aussi il était du côté d'Otepa en fin d'hiver pour les championnats du monde junior. Bref, une très belle saison et on va y revenir. C'est Valentin Lejeune qui est avec nous. Salut Valentin.
Salut, salut.
Bon, tu vas bien?
Ça va, nickel. Je relâche enfin la pression de tout l'hiver, donc mais ça va.
Ouais, on a commencé le repos là, on est en pleine période de repos, après cet hiver chargé.
Oui, tout à fait, mais j'ai eu la chance de finir le championnat de France une semaine avant le mois d'avril, donc j'ai une semaine supplémentaire de repos, c'est tout bénef.
Ok. Merci Valentin d'être là.
Merci pour l'invitation.
Ouais, ça nous fait vraiment très plaisir, c'est la première fois que tu viens, donc on a plein de questions à te poser, et notamment, comme je l'ai dit, sur ta dernière saison qui a été très riche en courses et en nouveautés pour toi. Et pour y revenir, je suis accompagné d'Emeric. Salut Emeric.
Salut, salut, comment allez-vous tous les deux?
Eh ben ça va.
Nickel.
Très bien. Emeric, content d'être de pouvoir parler avec Valentin?
Bah oui, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à le suivre cet hiver, puis même les hivers précédents, avant qu'il n'apparaisse sur nos écrans de télévision. Donc ça fait très plaisir.
Ouais, et justement, on va nous parler de ta dernière saison, hein, Valentin, mais aussi on va apprendre à te connaître un peu plus, hein, de qui tu es, Valentin Lejeune, aussi dans la vie à côté du biathlon, hein, voilà, et ouais. En dehors et donc sur les pistes. Et on va aussi, donc, comme d'habitude, hein, comme avec un nouvel invité, on va finir par le petit jeu, hein, de fin. Hein,
avec plaisir.
Ah, il est déjà prêt. Valentin est déjà prêt, il nous a dit qu'il avait déjà étudié l'affaire, donc normalement, il devrait abattre les 5 cibles sans souci.
Sans souci, 100 balles de pioche.
Voilà, parfait, il est déjà prêt. Bon Valentin, c'est parti?
C'est parti, let's go.
Ok, c'est parti, jingle. Bien, alors Valentin, avant de commencer de passer la main, je vais la donner déjà à Emeric. Emeric, est-ce que tu peux nous donner les stats de Valentin cet hiver, s'il te plaît?
Ouais, pas de souci. Donc cet hiver, Valentin, tu as pris part à 22 courses internationales, dont 2 relais et une course de Coupe du Monde sur laquelle tu termines 61e. Sur toutes ces courses de cet hiver, donc, tu as remporté notamment le bronze sur le relais homme avec Axel Garnier, Théo Guiropoyo et Jacques Geffries aux Mondiaux Juniors à Otepa en Estonie. Tu as également remporté l'argent sur l'individuel donc de ces mêmes Mondiaux Juniors derrière l'Allemand Leonhard Pfund. Tes statistiques de tir pour cet hiver, donc pour toutes ces courses, ces 22 courses au total, tu tournes à 82,3% de réussite, dont 89,2% couché et 76% tout rond debout. Tu termines au final de cet hiver d'IBU Cup 16e. L'année dernière, tu étais à titre de comparaison pour les gens qui nous suivent, tu étais 13e de Junior Cup. Sur ces courses d'IBU Cup, tu termines en moyenne 23e et tu as le 18e temps de ski moyen.
Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans.
Le compte est bon, Valentin?
Le compte est bon, ouais.
Bah, d'ailleurs, de toutes ces stats-là, il y en a une que tu retiens plus particulièrement ou pas?
Ouais, peut-être bah, la première place la première course en Coupe du Monde, je pense, la 61e. Ouais. C'est vrai qu'elle est particulière. Et aussi mes stats de tir, je pense que c'est la première fois que j'ai des aussi bonnes stats, donc je les retiens aussi. Ouais.
Ouais, 90% presque au coucher, c'est une stat très solide. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Non, je suis très, très content de mes tirs cette année.
Mmh. Ouais, donc je le disais, hein, donc les IBU Cup, la Coupe du Monde. La Junior Cup, finalement, comment on pourrait définir ta saison, Valentin, enrichissante?
Enrichissante, c'est le mot, ouais, enrichissante. C'est vrai que j'avais, dès le début, envie d'aller en IBU Cup, c'était vraiment l'objectif majeur de la saison. J'ai réussi à grimper là-haut et ensuite à progresser tout le long de mes courses en IBU Cup. Je pense que j'ai réussi à tirer quelque chose de chaque course et progresser. Et ma Coupe du Monde m'a fait aussi été un très, une très très grosse expérience, très enrichissante, encore une fois. Et les mondiaux également. Donc enrichissante, je pense que c'est le mot. Ouais.
Du coup, ta saison, bon, avant de commencer à l'international, bien sûr, il y a eu des sélections du côté de Bessan. Et
voilà.
Ouais, sur la première course, ça n'avait pas super bien commencé puisque tu avais terminé 29e. Mais par la suite, du coup, tu t'es parfaitement repris en prenant la 4e place sur l'individuel cours. Donc, en gros, premier objectif de l'hiver validé avec cette première sélection en IBU Cup, je suppose.
Oui, c'est ça, mais c'est vrai que ça avait extrêmement mal commencé. Je tire à 4 sur 10 sur cette première course de sélection. Il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress. On sait très bien que les premières courses de sélection, elles sont cruciales pour la suite. Il faut performer dès le début pour lancer l'hiver de la meilleure des manières. Et j'ai complètement échoué dès la première course. Je pensais pas tomber aussi bas. Et c'était extrêmement dur mentalement à ce moment-là. Parce que 4 sur 10, voilà, ça m'est rarement arrivé ou dans mes très jeunes années.
C'est le stress du moment.
C'est le stress du moment, ouais, c'est sûr, c'est sûr. J'ai pas fait une grosse analyse de ces courses tellement elles étaient particulières à vivre, mais c'est le stress. Et donc la course suivante, je l'ai abordée presque en n'ayant plus rien à faire du biathlon, en mode plaisir, et ça a fonctionné. Et donc c'est le principal. Le but c'était de sélectionner, mais je suis passé par toutes les étapes possibles sur ces trois courses de sélection.
Ouais. Ah, au final, ça s'est bien terminé quand même, tant mieux.
Oui, voilà, tant mieux. Ouais, c'est... En plus, les nouveaux points cette année, les points de sélection, ils ont changé. Donc, le fait d'avoir eu une victoire donc sur l'individuel, enfin, j'ai fini quatrième, mais le premier des sélectionnables, entre guillemets, bah, tout de suite, ça m'a sauvé, en fait.
Ça a fait du bien, ouais.
Donc, ouais.
Ok, ok. Et juste avant ça, ouais, je voulais savoir ta préparation, c'était quoi, comment s'était passée ta préparation avant d'arriver à Bessan?
Elle s'était vraiment, vraiment bien passée. J'avais aucun pépin physique, presque pas de maladie. Non, vraiment parfait. C'était la préparation presque rêvée. Même je récupérais plutôt bien des stages d'entraînement, des entraînements chez moi. Je sentais une vraie progression sur le plan musculaire, même au tir. Donc, je me sentais très, très, très prêt pour les courses. J'avais plus aucun doute dans ma tête. J'étais prêt. Et donc, voilà, il fallait en découdre. Mais la première course m'a rappelé que le biathlon n'est pas si facile. Et même si on est prêt, on peut échouer dès la première course.
Et ça fait aussi la beauté du biathlon. C'est ça.
Ouais, tout à fait.
Du coup, par la suite, donc, tu passes ton mois de décembre sur l'IBU Cup, tes premières courses sur ce circuit. Tu tournes pas mal entre la 20e et 30e place. Pardon. Quelles sont tes impressions sur ces premières courses à ce niveau-là?
C'est vrai que j'avais un objectif en arrivant sur l'IBU Cup. J'avais toujours cet objectif-là. J'avais analysé les performances des Français sur les saisons précédentes. Et je m'étais dit que dans le top 20 en temps de ski, c'était un bon objectif. Et après, je cherchais du 9 ou 10 sur 10. Donc, je suis parti de Kontiolahti avec des tirs un peu compliqués, même des temps de ski, pas forcément à la hauteur des objectifs. Mais j'ai fait que progresser sur ce mois de décembre. À chaque course, j'ai réussi à progresser, je pense, ou presque, pour finir avec la Master de Souchon avec ses premières fleurs. C'était incroyable. Donc, franchement, très grosse progression sur ce premier hiver, sur ce mois de décembre entre l'étape de Kontiolahti et l'étape de Souchon, une grosse progression. Et c'est ça que je retiens en fait de ce mois de décembre, c'est qu'il m'a fait vraiment, il m'a fait passer un cap et réussir à construire un biathlon pour le reste de l'hiver.
Et ouais, du coup tu le disais, hein, donc tu finis 2023, donc c'était mi-décembre à Souchon, par une 6e place sur la Mastart 60. Y a de quoi passer les fêtes avec le sourire. Hein.
Ah, tout à fait. Oui, c'était là. Je voulais rentrer dans le top 10 quelques fois. Je me suis dit que c'était possible avec des bons tirs et une forme physique normale, entre guillemets. Je savais que c'était possible. Mais on sait très bien que les Norvégiens, ils sont toujours devant. ils occupent toujours au minimum 50% du top 10.
À tous les échelons, ils sont pénibles. Hein.
C'est ça. Donc, toucher le top 6, c'est compliqué, ça c'est sûr.
Ouais.
Mais bon, je l'ai fait, c'est, extrêmement fier de moi sur cette course, d'avoir construit le 18 sur 20 sur une mass start. Et ouais, les premières fleurs en IBU, c'est particulier quand même, c'est intense à vivre.
Ouais, elles ont fini où ces fleurs? Tu les as encore?
J'ai pas eu de fleurs, j'ai eu du saucisson.
Ah, du saucisson?
Ouais, ça sera mieux. Hein,
c'est mieux, ouais. Ouais. Je suppose qu'il a été vite mangé. Hein.
Ouais, il m'en reste un parce qu'on le garde pour les grandes occasions, il y en a deux. Donc il y a 50% des saucissons qui ont été déjà mangés.
Pas mal, pas mal.
D'ailleurs, comment toi tu l'as vécu la suprématie des Norvégiens sur le circuit?
Alors moi je m'y attendais en fait. Enfin, je savais que les Norvégiens étaient très performants en IBU et les voyant aussi sur la Coupe du Monde être plus forts que les autres. Pour moi c'était logique et donc j'acceptais ça hein, que les Norvégiens étaient plus forts. Ça me faisait pas grand chose, je les admirais. Hein, quand on a la chance de skier derrière, on essaye de tirer un maximum d'informations de comment ils skient. Mais voilà, on les admire vraiment quand on est en IBU, mais en tout cas, je l'admire les Norvégiens.
Ok, ok. Du coup, si on suit chronologiquement, donc par la suite, sur le mois de janvier, tu entames ce mois-ci toujours sur l'IBU Cup. Ouais. Mais en n'étant pas dans les meilleures dispositions, parce que tu étais malade, si on se souvient bien, pour cette reprise.
Oui, exactement.
Et tu n'as pas pris le départ même d'une course, c'est l'individuel court à Martel.
Oui.
Et du coup, ça ne va quand même pas t'empêcher de signer une nouvelle très grosse performance. Tu termines 7e du sprint. Une grosse performance qui, par la suite, on s'en doute, hein, te permet de t'offrir ce ticket pour la Coupe du Monde à RuPolding.
Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que je suis arrivé à Martel. Avec la gastro tout simplement, donc j'ai passé une nuit cool, sympa dans l'individuel. J'étais dans la chambre avec Damien Levey, j'étais dans un lit double avec Damien Levey. Il m'est arrivé à 3h du mat en train de vomir toutes les 30 minutes. C'est particulier. Je me suis dit, il faut quand même récupérer d'une gastro, c'est pas simple.
Oula, oui, ça te vide. Hein.
Ah, ça, oui.
Ça vide. Vraiment, le journée d'après, j'étais cuit. J'ai la chance que moi, ça se vide très rapidement et ça se reconstruit rapidement aussi. Donc, c'est vrai que c'était particulier. Il y avait pas mal de questionnements sur la forme physique. Donc, à Martel, j'ai quand même couru sprint poursuite avec des temps de ski corrects. Mais. Ouais. J'étais très bien sur la poursuite et j'explose dans le dernier tour, une explosion massive. Donc là, ça m'a remis pas mal de doutes pour Ridana. Je me suis dit, mais quand ça se trouve, t'as fait une boulette de vouloir absolument courir les sprints poursuites de Martel. Et donc les premiers jours à Ridana étaient vraiment compliqués sur le plan physique. Je me suis demandé si j'avais pas fait d'erreur et si je commençais pas à flanquer. Mais bon, la piste de Ridana me convenait vraiment bien. Et je sentais qu'en tir, je commençais à réussir à bien poser des bons tirs assez réguliers. Donc voilà, je suis parti.
J'ai fait le 10 sur 10 sur ce sprint.
C'est ça, j'ai fait le 10 sur 10, c'est mon premier en carrière.
Donc, grande fierté.
En fait. C'est pas le dernier, exactement. Mais grande, grande fierté sur ce sprint. J'ai rarement été aussi fier de moi, je n'avais jamais fait de tir. Deux tirs à 5 sur 5, tout simplement en sprint. C'est vrai que c'est particulier de réussir à faire ça. J'étais très, très, très content. Et à ce moment-là, je ne pensais absolument pas à la Coupe du Monde.
Mais voilà. Vous étiez au courant quand même qu'il y avait cette place à aller chercher, ouais.
En fait, moi, je n'en avais pas pris du tout conscience. Antonin Guigona était revenu pour cette course. Donc, il y avait une place là-haut. Mais moi, dans ma tête, ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit que je pouvais me sélectionner, en fait.
D'accord.
Et en fait, j'étais vraiment concentré sur la forme physique qui flanquait, dont j'avais peur de ne pas la récupérer, que je me suis concentré pour faire une course correcte plutôt que de me sélectionner pour la Coupe du Monde. Et le mot Coupe du Monde, je ne l'avais pas du tout à l'esprit, à Ridana, en tout cas.
Ouais, donc ça a été une surprise.
C'était une grande surprise en fait. C'est après ma course, donc je vais dans la cabane, trop fier de moi, de mon 10 sur 10, je regarde les temps, je regarde, je fais 7e, je dis ah les fleurs, dommage, mais 7e, j'étais extrêmement content. Et en fait, je vais faire ma récup juste après, et là c'est Damien Levey et Théo qui me disent mais tu vas aller en Coupe du Monde. J'étais là, mais vous rigolez, vous avez fumé. Je n'avais pas du tout pris conscience, et en fait, me suis fait le petit cheminement dans ma tête. Enfin, j'ai vu qu'Antonin, il était là. Je me suis dit, ah oui, s'il est là, en fait, c'est peut-être qu'il y a des sélections pour ces courses. Et puis, je voyais Stéphane Gouttelot qui passait des coups de fil au bord de la piste et tout. Et tout le monde commençait à me parler de Coupe du Monde. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? et après, je rentre dans la cabane, il y a tous les coachs qui parlent entre eux. Attends. Et donc, Stéphane Gouttelot vient me voir en dehors de la cabane. Il me dit, dans 30 minutes, on part pour Ruhpolding. Donc là, j'étais là.
Ah ouais?
D'accord, ok.
Ah, ça doit être fou.
Le sentiment doit être bizarre parce que entre l'excitation, un peu même la crainte, je sais pas comment t'as dû ressentir ça là.
En fait, j'étais hyper fier de moi de la course du jour. Donc moi, je pensais tranquillement retourner à l'hôtel, profiter. Il y avait une grande piscine à l'hôtel, mais moi, j'allais faire un plongeon dans la piscine quand même. et oui, on me dit que je monte en Coupe du Monde, bah là. En fait, je ne réalise pas du tout. Là, tout de suite, je prends une fusée et je me retrouve sur une autre planète en 10 minutes.
Donc, sur la planète de Johannes Beu, ouais.
C'est ça.
Mais ouais, du coup, bah, donc direction avec Stéphane Boutiot, hein, Ruhpolding. En plus, c'est pas n'importe quel titre de Coupe du Monde. Hein, pour une première, c'est quand même pas mal.
Ouais, mais en fait, je prépare mes affaires 30 minutes après la course. Et tout de suite, on part. Je ne savais même pas qu'il y avait des Coupes du Monde à Ruhpolding. En fait. Je n'avais même pas suivi le plan de la Coupe du Monde.
Ouais.
Et je ne sais même pas où ça se trouve, Ruhpolding. Donc, on était en Italie, 2 heures de route. Ok, bon, ça va. Et c'est vrai que 3 heures après ma course, je me retrouve dans l'équipe de France A. c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre.
C'est un cadeau d'anniversaire un tout petit peu décalé, en fait.
Ah ouais, c'est un chouette cadeau. Oui, tout à fait.
Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, donc tu es du 29 décembre. Donc là, la sélection s'est passée mi-janvier. Donc c'était pas longtemps après, quoi.
Ouais, c'était pas longtemps après, effectivement. Pour les 21 ans, c'est
ouais. Mais d'ailleurs, cette première sélection, donc, comment tu l'as vécue, ouais, c'est notre première en Coupe du Monde par la suite?
Donc là, bah. J'étais sur une autre planète complète.
Et donc, on te sent encore sur une planète là, en ce moment-là.
Ça, c'est possible. En fait, je viens juste de me battre il y a 5 minutes avec un frelon asiatique qui avait dans la
forme. Ah, d'accord.
Oh, putain.
Donc là, c'est bon. Mais non, c'était particulier parce que j'ai pris conscience de l'événement, en fait. J'étais en IBU Cup, tranquille, pas trop de public. On est rediffusé sur l'équipe, mais sur l'équipe live. Donc, il n'y a pas trop de monde. C'est l'IBU Cup, mais c'est un gros cran de tout, la Coupe du Monde. Donc là, j'ai pris conscience de l'événement. J'ai fait mon premier entraînement là-bas. Et tu vois toutes les infrastructures, tout le monde qui gravite autour, tout le staff aussi. Et donc là, il y a une excitation énorme, en fait. Et un peu de stress aussi, mais c'est surtout de l'excitation. Simon Fourcade m'a dit de profiter de l'événement, et c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc, je l'ai abordé, non pas sans stress, mais avec l'envie de profiter et de prendre de l'expérience.
Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué là, sur cette première étape de Coupe du Monde pour toi?
C'est vrai que c'est l'événement dans sa globalité, quoi. Le public qui est monstrueux, et ça déjà c'est énorme, le public. Quand on fait ces essais de tir avec, je sais pas, 6000 personnes en face qui crient et qui chantent des chants en allemand bien fort, on n'entend pas le coach qui dit les informations sur les tirs, donc ça c'est vraiment particulier. Et c'est vrai que la course, elle passe extrêmement vite avec le public. Donc, on ne s'entend pas respirer et tout va très vite. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est vraiment tout c'est l'atmosphère générale avec tout ce qui gravite autour de la Coupe du Monde. Donc, le staff, les stands, le public, l'endroit aussi. Ruhpolding, c'est quand même un chouette, c'est une arène. Donc, ouais. On se retrouve presque au milieu d'un stade de foot, quoi. Donc c'était c'est ça, et puis c'est intense à vivre.
Et tu avais déjà vécu une Coupe du Monde en tant que spectateur?
Non, je n'étais jamais allé au Grand Bornand. Donc ouais. C'était ma première événement en Coupe du Monde, donc c'est une participation, tant mieux. Mais...
ouais. Pour nous, Émeric, avec Émeric, non, nous, c'est pas.
Non, ça n'en pas trop.
Mais en tant que spectateur. Hein.
Ouais, ouais.
Et sinon, si on joue à ça, on a plus de sélections que toi en Coupe du Monde. Hein.
Et... oui.
Et non plus que moi.
Voilà.
Mais des Vosges, est-ce que ça serait pas plus proche certaines étapes en Allemagne que d'aller au Grand Bornand? C'est le bordel quand même, le Grand Bornand, pour y aller.
Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Et je sais pas pourquoi je ne suis jamais allé au Grand Bornand. Parce qu'on a des compétitions en même temps des fois.
Ouais.
Oui, non, effectivement. Mais c'est, le Grand Bornand, ça doit être vraiment chouette en tant que spectateur, autant qu'en tant que coureur. Ouais.
Oui, en tant que spectateur, c'est sympa. Ouais. Ouais. Spectateur français, surtout.
Ah, spectateur français, ouais, bien entendu.
Ouais. Et ouais, d'ailleurs, pour revenir sur la course, hein, donc la première course, hein, donc sur la Coupe du Monde, le sprint de RuPauling.
Ouais.
Ah, tu finis 61e. Il manque pas grand-chose, hein, pour la poursuite. On t'a vu après en interview, hein, tu dis qu'il n'y avait pas de regrets, tu avais tout donné. Mais il y a quand même peut-être un peu de frustration au final de pas de
Il y a de la frustration, il y a une pointe de frustration sur ma dernière balle couchée, où j'avais aucune raison de la louper. Et c'est clairement le public qui me l'a fait louper, c'est le public qui m'a un peu déstabilisé. Parce que j'étais, je pense, tout seul toujours pas de tir à ce moment-là. Donc ça a commencé à crier à partir de la 2e, 3e balle, à la 4e balle encore plus. Et la 5e balle, voilà, ça sera, je pensais sans doute pas à la visée, et plutôt au public qui allait crier si j'allais la mettre. Donc c'est juste peut-être la pointe de frustration, mais c'est de l'apprentissage aussi. Et voilà. Bon, c'est vrai qu'à 4 secondes de la poursuite, ça peut paraître frustrant, mais sur la piste, je vois pas où c'est que je pouvais gagner 4 secondes. Donc voilà, pour une première expérience, c'était chouette. Et 4 secondes, ça me laisse pas de regrets.
Et ça a dû être aussi être enrichissant de vivre dans un nouveau groupe, découvert enfin avec à côté de Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Eric Perrault.
Oui, tout à fait. Oui, carrément. Je les connais un peu de base parce que des fois on les croise un peu lors des stages, des fois on a l'occasion de s'entraîner avec. Mais c'est vrai que d'être dans le groupe au cœur en tant qu'athlète, au cœur du groupe, c'est très enrichissant. On voit comment ils fonctionnent. Ouais, on est à côté des champions. Donc,
Et ça faisait un second Vosgien avec Fabien Claude.
Oui, exactement. Ouais, un second Bas-sur-Rois, même, on pourrait dire. Le club de Bas-sur-Rois. Ouais, tout à fait. Ça commence à en faire des Bas-sur-Rois qui fait de la Coupe du Monde.
Ok. Suivons de manière chronologique ta saison. Donc, après ce court passage, mais très enrichissant donc, en Coupe du Monde. Tu es retourné en eBay Cup pour prendre part notamment au championnat d'Europe de Brezno avec une 14e place en meilleur résultat sur la poursuite. Et ensuite, l'étape d'Arbeur la semaine suivante. Puis, tu as terminé ta saison donc, sur les championnats du monde junior d'Otepa en Estonie, comme je disais plus tôt. On reparlera par la suite donc, des Europes. Mais d'abord, comment s'est décidée ta sélection entre rester sur l'eBay Cup et ces mondiaux juniors enfin, même, est-ce qu'il y a eu question? Comment ça s'est passé quoi?
Alors, moi, dès le début de la saison, l'objectif aussi, donc après l'IBU Cup, c'était les championnats du monde junior, parce que c'était mes derniers championnats du monde junior, et j'avais quand même une très très forte envie d'y participer, et de ramener quelque chose de là-bas. Donc il n'y a pas eu beaucoup de réflexion à faire, c'était les championnats du monde à la place de l'IBU Cup de Bertillac. Et voilà, les coachs nous ont posé la question quand même, mais... Mais pour moi, ça s'est fait naturellement. Je voulais vraiment aller au championnat du monde junior. Donc ouais, voilà. Puis je ne jouais pas quelque chose de grand au niveau du Cup. Je sais que les filles jouaient les globes de cristal, Anaël et Océane. Ouais. Donc, effectivement, si je jouais un globe de cristal en niveau du Cup, peut-être que je serais resté. Mais ce n'était pas le cas. Donc, je pouvais défendre mon cas au classement général, mais c'est moins intéressant que d'aller chercher les médailles au championnat du monde junior.
Ok.
Voilà.
Ok, d'accord. Non, mais c'est sympa à savoir. Donc, du coup, tu as bien fait d'aller en Estonie, d'où tu repars avec deux médailles, on l'a dit juste avant. Donc, l'argent sur l'individuel et le bronze sur le relais masculin. Sur l'individuel, tu réalises une grande performance en étant le seul à faire le 20 sur 20. Une grande satisfaction, du coup, hein, d'être le seul en plus à faire ce magnifique tir, quoi.
Oui, ben, en plus, c'est mon premier, encore une fois. C'est l'année des premières, exactement. Et, je voulais vraiment décrocher une médaille. Je suis allé là-bas, j'avais toujours en tête les performances d'Emilien Claude pour sa dernière année junior. Et, je me suis dit que c'est pour les derniers mondiaux juniors. Ma carrière junior, après, est finie, quoi. On n'en parle plus. Je suis plus jamais junior de toute ma vie. Donc, je voulais absolument décrocher une médaille individuelle. Quoi. C'était vraiment dans ma tête. Et il était hors de question de leur part sans médaille individuelle. Et, bon, voilà, je savais que sur l'individuel, fallait passer par des bons tirs. J'ai réussi à rester à mon affaire tout au long de la course. Et j'avais là peut-être la chance d'avoir une forme physique pas au top. Donc, ce qui m'a fait, j'ai plus cogité pendant la course sur la forme physique qui dégringolait au fur et à mesure des tours plutôt que les bons tirs qui s'enchaînaient. Et c'est peut-être ça qui m'a fait, qui m'a sauvé pour les deux derniers tirs, en tout cas. Mais oui, une grande, grande fierté de faire le 20 sur 20 et de réaliser cette deuxième place. Ouais.
Bah ouais, t'as une médaille. Pour les derniers, ouais, c'est beau. Et puis, du coup, tu finis carrément, même c'est Mondiaux Junior, avec une médaille de bronze avec les copains.
C'est ça, ouais. Et ça aussi, c'était un gros, gros objectif pour nous, pour les copains, parce que la médaille en relais, c'est un sentiment quand même particulier. En équipe, comme ça, c'est un synonyme de... Ouais, d'avoir une équipe solide.
Avoir un bon groupe, ouais.
Mm-hmm. Un bon groupe, la médaille était... pas forcément facile à aller chercher. Il y a pas mal d'équipes qui sont denses aussi. On savait que les Norvégiens allaient très certainement dominer un peu la course. Et, pour aller les chercher, il fallait être très très solide. Mais voilà, on l'a fait. Hein. On garde ça. Ouais.
Bah, vous étiez à la hauteur hein, après le troisième relais. Hein.
C'est vrai. C'est vrai. Oui, ils ont craqué effectivement sur différents tirs. Et, comme quoi, rien n'est impossible. Mais bon, on a la médaille, je pense que c'est le principal. C'est vrai que l'or, c'est toujours plus beau, mais ramener une médaille, c'est quand même déjà un bel objectif de cocher.
C'est clair. Ça permet de finir sur une bonne note, ouais.
Voilà, exactement.
Et avant ces mondiaux juniors, il y avait donc aussi ces championnats d'Europe en janvier. Ouais. C'est aussi un bel événement pour toi, après tes premières courses en IBU Cup, ta première course de Coupe du Monde, l'événement donc du circuit B, de pouvoir y contribuer, enfin pour y être, c'est
oui,
vrai,
oui.
Super.
Carrément, en plus, il y a beaucoup d'athlètes qui redescendent de la Coupe du Monde, je pense à Rastor Gouyev, il y a différents athlètes comme ça, qui donc le niveau est plus élevé, et donc c'est... Et en plus, l'organisation a été incroyable. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé le site, la piste, on a eu de très bonnes conditions, et j'avais un peu peur, c'est vrai que beaucoup, beaucoup d'athlètes parlaient d'Orsbly.
Ouais, bah là, oui,
en négatif, ouais.
Témoigne.
Du coup, c'est vrai que j'abordais un peu les courses, j'abordais un peu l'événement. Je me suis dit, bon, on verra bien comment ça se passe, mais le site était vraiment chouette. Et non, moi j'ai vraiment bien aimé Orsbly. C'était un poil de regret sur une course, sur l'individuel. C'est vrai que j'étais pas dans ma meilleure forme en tir, sans doute. Pour le coup, en ski, c'était vraiment mon pic de forme, je pense à Orsbly, et j'étais vraiment bien. Et voilà, j'ai suivi. Je redescendais aussi de la Coupe du Monde, donc ça c'était particulier parce que j'avais vécu quelque chose de très fort, et donc je savais pas quel allait être mon niveau. J'allais redescendre du nuage sur lequel j'étais en Coupe du Monde. Mais voilà, j'ai retrouvé mes marques en IBU sur ces courses. Et encore une fois enrichissante. Ouais.
Ok, ok.
Ouais, donc ta saison aussi, après bah, les mondiaux juniors, c'est terminé. Donc à Méribel avec Championnat de France, tu as été notamment médaillé d'argent en U22 sur la Mass Start.
C'est ça.
Ouais, donc bon, des dernières courses difficiles, hein, il ne restait peut-être plus grand chose dans le moteur.
Oui, il n'y a plus grand chose dans le moteur. Bah, ouais, je suis retourné à la FECLA juste avant. Bon, là, il n'y avait vraiment pas grand chose du tout dans le moteur, d'un point de vue mental et d'un point de vue physique. Enfin, surtout d'un point de vue mental d'ailleurs, c'est vrai que quand on a coché tous les objectifs. C'est difficile de se remobiliser, enfin, qu'on a vécu plein de bonnes choses durant l'hiver, c'est difficile de se remobiliser pour des championnats de France. Mais après, à Méribel, c'est vrai que c'est des courses particulières parce que tout le monde est là, toute l'équipe A. Donc, et puis c'était ma dernière course junior aussi. Donc, j'avais vraiment à cœur de bien faire. Et je voulais la gagner, cette dernière course junior, en vrai, au fond de moi. Mais Mathieu Garcia m'a donné du fil à retordre.
Ouais, il a fait un beau week-end, hein, Mathieu.
Ouais, il a fait un très très beau week-end, ouais. Ouais.
Mais en tout cas, Valentin, pour ta dernière année junior, le bilan est excellent.
Le bilan, oui. Tous mes objectifs sont cochés. Et, il n'y a aucun regret, en tout cas. Et, ouais, le bilan est très très bon. C'était l'objectif de finir ma carrière junior en beauté. Et je crois que l'objectif est réalisé.
Ouais, même au-delà de tes objectifs, peut-être aussi, on l'a dit, avec cette première course de Coupe du Monde, tout au
milieu
quasiment du IBU Cup, franchement, là, oui, c'est...
Oui, c'est presque au-delà des objectifs, effectivement. Ouais.
Donc, non, un très bel hiver, Valentin. Donc, déjà, bravo pour ta belle
Félicitations.
saison. Ah oui.
Merci, merci.
Donc, on a pris plaisir à te suivre durant cette saison et on va encore en prendre du plaisir, je suis sûr, les hivers à venir. Et
Je l'espère, oui.
Ah oui, ça va être très, très intéressant. Bien, alors maintenant, Valentin, on va maintenant un peu plus apprendre à te connaître. Ouais, déjà première question, on voulait savoir, ouais, tu fais quoi comme étude à côté du biathlon?
Je fais une licence d'informatique à Grenoble, à l'UGA. Voilà, avec le système, le dispositif intervalle, donc qui me permet d'étaler le cursus. Donc je fais une année de licence en 2 ans. Et voilà, je poursuis toujours. Et voilà, c'est une bonne.
Tu sais, une bonne conclure que tu pourrais faire plus tard? Ça pourrait.
En fait, c'est le biathlon qui va un peu guider mon avenir. Si j'ai réussi dans le biathlon, si je fais une carrière, c'est vrai que ça sera peut-être difficile d'avoir un métier presque complètement différent de l'activité de ma carrière, entre guillemets. Donc, je sais pas. En tout cas, je poursuis. Le but, c'est quand même de terminer la licence. Et voilà, si je peux aller en master en informatique, en cybersécurité, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours le pied dans les études et je compte le garder encore.
Moi, j'avais une autre question aussi, sur le côté un peu plus hors biathlon. C'est quelles sont les passions et les centres d'intérêt de Valentin Lejeune?
Les passions et les centres d'intérêt. Alors, j'aime bien la musique,
ouais.
En général, de faire de la musique. J'en ai pas fait beaucoup, mais je fais beaucoup ça, d'ailleurs, même pendant les stages, les après-midi. Donc si j'ai vraiment envie de me changer les idées, de la musique sur mon ordinateur. Des fois, ça rend pas grand-chose. Des fois, c'est plus intéressant. Je fais écouter des petits sons aux copains de l'équipe. Ensuite, il y a la photo. J'aime bien la photo. J'ai pas vraiment le temps de m'y consacrer beaucoup, mais quand j'ai l'occasion de sortir un peu l'appareil photo,
j'ai beaucoup. J'ai l'impression d'aimer la photo.
C'est ça, ouais. Mais ouais. Moi, je suis plus dans la photo de paysage.
Ouais.
Je photographie pas trop les gens, mais les paysages. Donc voilà, ça aussi, ça me permet de me changer les idées. Et voilà, c'est ça. Donc en dehors du biathlon, soit je fais un peu d'école d'informatique, soit un peu de musique et de photographie. Voilà, en gros.
Ok. Et du coup, un peu dans la même veine, demain, si je te dis que tu as une semaine off, tu peux faire absolument ce que tu veux. Peu importe les moyens et tout, qu'est-ce que tu fais pendant une semaine?
Qu'est-ce que je fais pendant une semaine off sans biathlon?
Ouais, sans rien. Et t'as moyen plus ou moins illimité, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu fais pendant une semaine?
Si je parle pas du tout de biathlon, je pense que je vais commencer par faire de la musique.
Ouais.
Si je veux vraiment commencer la semaine en coupant. Donc là, si je fais de la musique, je vais pas trop quitter l'ordinateur de la journée et la journée va passer à une vitesse folle. Donc après, je me serais rendu compte que je n'aurais pas fait grand chose en soi de ma journée parce que la musique que je reste n'est pas postable. Donc là, je vais le lendemain, je vais me mettre sur l'ordi et me connecter sur les mails de la fac déjà avant de me connecter sur les cours. Prendre confiance que j'ai 20 mails de retard, donc stresser un petit coup. Suite à ça, comme j'aurais bien stressé, il faudra que je sorte un coup, j'irai prendre l'appareil photo et faire quelques photos dehors. Si j'ai beaucoup beaucoup stressé, j'irai faire un bivouac et prendre des photos d'étoiles pour vraiment me vider la tête. Donc, suite à ces photos d'étoiles, je mettrai environ 15 jours à les retoucher.
T'as des spots à recommander pour aller faire des photos, tiens?
Ah, le Vercors, c'est quand même pas mal pour la Voie lactée.
Ah, ouais.
Il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse à plusieurs centaines de kilomètres au sud. Donc c'est très intéressant. Mais voilà, en tout cas, ça graviterait entre de l'école, de la photo et de la musique. Voilà.
Ok. Et ouais, une troisième question, toujours la même veine, c'est quoi ton plus grand rêve hors biathlon?
Mon plus grand rêve hors biathlon, c'est vrai que ce serait de devenir Alan Walker, le musicien.
Ouais, ah oui.
C'est vrai que c'est un truc, si j'aimerais bien avoir trois vies, je vous le dis. Une vie de biathlète, une vie de musicien, une vie de photographe. Mais bon. Voilà, peut-être que tout est réalisable en une vie, je ne sais pas.
Bah oui. Oui. Tout peut être réalisable. Il faut s'en donner les moyens.
Exactement.
Ouais. Bah d'ailleurs, on va recentrer un peu plus là sur ta vie de biathlon, de biathlète. Comment t'es arrivé dans ce milieu finalement?
En fait, mes parents aimaient beaucoup le ski et ils faisaient déjà pas mal de compétitions, enfin des longues distances, des courses populaires un peu partout en Europe. Et voilà, ils m'ont posé dans le ski, entre guillemets, dans le ski de fond au début. Et après, j'ai découvert le biathlon, je pense, à l'âge de 10 ans. J'ai fait ma première course de biathlon à l'âge de 8 ans, en suivant un peu les copains. Et après, j'ai pris le bus du biathlon et je suis resté dedans en faisant des compétitions un peu tous les hivers. Et voilà, si on m'avait posé dans le vélo, j'aurais sûrement fait du vélo. Si on m'avait posé dans le foot, j'aurais sûrement fait du foot. Mais et au début, j'ai pas mal fait de courses de ski de fond aussi, comme tout, ouais. Tout biathlète. Et voilà, ça a commencé il y a un bon moment déjà. Mais voilà, c'est vrai que c'est les parents au début qui guident un peu.
Ouais. Mais ouais, d'ailleurs, tu as désormais beaucoup de courses comme déjà à ton compteur, même que ce soit la scène internationale. C'est quoi déjà ton meilleur souvenir en tant que biathlète jusqu'à présent?
Oh, bah, je pense que c'est la Coupe du Monde. La première Coupe du Monde, ouais. C'est vrai que c'est le Graal, on a envie, c'est ce qu'on rêve en fait, de faire une Coupe du Monde. D'y rester bien sûr, mais déjà de pouvoir toucher la Coupe du Monde, c'est un vrai rêve. Au début, ça paraît si lointain au début, et ça, on s'en rapproche, mais d'avoir pu vivre l'événement là, c'est quelque chose qui restera gravé, c'est certainement.
C'est même pas les mondiaux de Chouchinsk l'an dernier?
Les mondiaux de Chouchinsk, j'avais vraiment bien aimé l'événement, mais malgré bah, mes performances étaient un peu moyennes, entre guillemets. Pour être poli.
Non, mais on aime bien en parler toujours un petit peu de cet événement avec Imric.
Ah, j'avais bien aimé.
Chouchinsk.
Chouchinsk, l'organisation était top, les conditions étaient presque top, et l'hôtel était top, il y avait tout pour être top, sauf ma condition physique.
Tu es encore dans le biathlon, même dans ta progression, est-ce que justement pour progresser, tu as toujours un biathlète modèle?
Un biathlète modèle, bah c'est vrai que dans mes jeunes années, je regardais beaucoup Martin Fourcade et je l'admirais. C'est vrai que c'est lui qui nous faisait rêver à la télé, donc devenir Martin Fourcade, c'est quand même de base quand on a 14-15 ans, c'est
pas mal.
C'est en fait. Et après, j'admire beaucoup les Norvégiens, comme ils skient, même comme ils dominent. Mais sinon, voilà, non, ça a été toujours Martin Fourcade au début, évidemment.
Ouais. Bah d'ailleurs, on se rappelle de ton interview après course à Harry Pauling, hein, où tu disais, en rigolant un peu, regretter que Martin soit plus là.
Non, c'est sûr.
Quelques années près, quoi.
Ouais. À quelques années près, ouais. Non, mais il a tellement marqué le biathlon, a tellement donné une dimension beaucoup plus importante à notre discipline que ouais, c'est le modèle, quoi. On s'en souviendra encore pendant énormément d'années de Martin Fourcade. Bah.
Je pense qu'on est beaucoup ici à aimer le biathlon, à l'apprécier, à le regarder grâce à Martin Fourcade. Hein.
Ah oui.
Tout à fait, oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
Qu'il a transmis ça à des fans et aussi à des biathlètes qui prennent le relais maintenant. Donc,
oui, voilà, oui, carrément.
C'est sympa de voir l'effet finalement domino de cette carrière de Martin Fourcade qui a des conséquences par rapport à toi, Valentin, d'évoluer maintenant, d'être fan et voilà, de l'avoir comme exemple et d'en faire maintenant ton métier, si je peux
dire. Oui, tout à fait. Il a donné envie à beaucoup de petits biathlètes de continuer le biathlon. Ils se sont donné les moyens de réussir, ça c'est sûr.
C'est clair.
Émeric.
Ouais, et bah, là, Romain, du coup, tu parlais de l'interview d'après-course. Moi, je vais te parler un peu d'avant-course. Est-ce que tu as, je sais pas, peut-être un rituel, un truc que tu fais avant course, où tu dis, tiens, j'ai oublié de faire ça, je vais pas me sentir bien pendant la course, ou tu vas faire que y penser, t'as un rituel, un tic, quelque chose.
Un caleçon porte-bonheur.
Un caleçon porte-bonheur.
J'ai un caleçon porte-bonheur, mais j'ai la chance de l'avoir en sectuple, entre guillemets. donc c'est bon, je peux faire 2 semaines de course en ayant mon caleçon porte-bonheur. Non, en fait, j'ai travaillé avec un prêtre mental pour justement avoir un rituel qui me mette dans des bonnes dispositions avant course. Donc j'ai fait ça sur la première course de sélection. Ayant vu rapidement les conséquences de cette course, j'ai souhaité faire tout à fait le contraire, ne plus rien avoir.
Ouais. Ok.
Donc en fait, je me laisse un peu aller avant les courses maintenant. C'est-à-dire que j'ai plus quelque chose de très 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 précis. Évidemment, il faut que je sois réglo sur mes horaires de réglage, tout ça. Bon, il y a des trucs auquel on ne peut pas... On
tu ne peux pas passer à côté, ouais.
Passer à côté. Mais c'est vrai qu'avant les courses, j'essaye de ne pas trop penser à la course, justement. J'ai beaucoup moins de rituels qu'avant. Avant, je calculais tout. Avec l'horaire à laquelle je mangeais, c'était pas à 5 minutes près, je commençais à stresser. Fallait que je prenne mes lunettes de course, les gants de course maintenant. Il y a pas mal de petites choses cet hiver qui m'ont fait dire que tout ça, ça sert presque à rien, en tout cas pour moi. Et que je peux arriver dans. Peu importe les dispositions dans lesquelles j'arrive, c'est le moment présent qu'il va falloir où je sois bon. Donc j'ai plus vraiment de rituel très précis.
Ok, non, mais très, très intéressant, ouais. Ouais. Un peu toujours dans le même domaine. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta carrière? Que ce soit un coach, quelqu'un, un proche ou quoi? Et qui te l'a donné si tu peux trahir le secret?
Alors, le meilleur conseil que j'ai reçu.
Même pas forcément sur le biathlon en soi, mais peut-être à une approche ou je sais pas, ouais, comment. Sur la préparation, sur le.
Ouais, sur la préparation. Il n'y a rien qui me vient en tête comme ça. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de conseils. Je me souviens, quand même, sur mes premières IBU Cup, quand je commençais à multiplier les 2 ou 3 sur 5 en tir debout, que Julien Robert m'a dit que je pouvais prendre énormément de temps de les tirer et juste avoir l'envie de mettre les balles plutôt que de vouloir faire un tir comme on a l'habitude à l'entraînement, donc un tir un peu rapide dans des standards, entre guillemets. Qu'il fallait plutôt que je casse tous les standards que j'avais créés pour essayer juste de mettre les balles à l'intérieur des cibles et point barre. C'est peut-être ça que je retiendrai de l'hiver.
Ok. En tout cas. Ah, c'est bien.
Ok, ouais, non, mais c'est vrai. Et ouais, du coup, tu parlais, tu as fait de la préparation mentale. Et du coup, comment tu gères les moments de frustration ou de déception après une performance qui répond pas forcément à tes attentes?
Il y a tout type de frustration. Si on reprend la première course des sélections, c'était difficile à gérer. J'étais vraiment au fond du trou complet après cette première course des sélections. Et après, durant l'hiver, j'essaie toujours de comprendre un minimum pourquoi j'ai échoué sur une compétition. Et si j'ai compris pourquoi, je laisse la course de côté et je me reconcentre sur la suite, entre guillemets. Mais j'ai pas eu trop de courses dans l'hiver où je me suis dit, à part cette première course de sélection,
ouais.
Où je me suis dit, t'as complètement foiré et je comprends pas pourquoi. Quoi. Donc j'arrive toujours à tirer et si j'arrive rien à tirer, j'essaye quand même de passer à côté. J'ai eu la chance, entre guillemets, de faire une bonne saison. Je pense à pas mal d'athlètes qui étaient dans mon groupe qui ont dû rester un peu plus en France parce qu'ils ne sont pas sélectionnés. J'aurais été un peu dans leur cas. Si j'avais été dans leur cas, ça aurait été complètement difficile. Là, je savais que j'avais la chance d'être en IBU Cup et d'avoir déjà fait un peu mes preuves sur le mois de décembre. Donc, entre guillemets, il y avait beaucoup moins de stress que des athlètes qui essayent de s'accrocher et de remonter en partant de la Coupe de France. Donc, ouais, voilà, la dimension est différente. Si j'étais resté en France, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
Et ta petite question, du coup, qui est un peu liée, hein, je pense. Tes proches, tes amis, ils viennent souvent te voir sur tes courses, te soutenir, t'encourager. Est-ce qu'il y a de la famille qui est venue quand même te voir à Rupo? Ou des proches?
Ah oui, il y a mes parents qui sont venus à Rupo, évidemment. Ouais, comme la du monde, mes parents étaient là. Et ouais, ça devait être intense pour eux aussi à vivre.
Ouais, tu m'étonnes.
Ils sont venus à Rupo Holding, c'était vraiment... Et puis ils sont venus aussi à Otepa pour les championnats du monde junior. Donc c'est vrai que ouais, c'est la famille qui suit ça de près.
Ah bah c'est cool,
très cool.
Ça doit être intense, ouais. Stressant pour les parents, peut-être plus pour les parents que pour toi d'ailleurs.
Sûr, oui. Bah, quand je passe à la télé, ils ne regardent pas mes tirs parce qu'ils stressent trop. Donc...
Oh bah, je pense qu'ils sont pas mal, hein. Même hors parents à fuir la télé pendant les tirs. J'en connais quelques-uns.
C'est sûr.
Des fans. C'est le biathlon, hein. C'est ça qui est.
Ah oui,
le stress.
C'est... Ça fout ouais, le stress. Hein.
Ouais, c'est vrai. T'as pas envie de porter la poisse, ne regarde pas la télé, mais bon, on sait très bien que ça ne changera rien au résultat final. Hein,
Non, mais c'est ça, on essaie d'avoir des petites superstitions comme ça.
Ouais.
Mais ouais, non. Non, effectivement. Mais même, j'arrive à même stresser en regardant mes courses en replay. Alors ça,
Ah oui. Voilà.
Ah, j'ai regardé mon individuel en replay des championnats du monde et c'est vrai que bah, j'avais le cœur qui se mettait à battre avant mon dernier tir.
Alors mais est-ce qu'il va le mettre? Est-ce qu'il va le mettre?
Est-ce qu'il va la mettre, quoi. C'est vrai que la manière
dont les commentateurs...
Ouais. La manière dont les commentateurs commentent, ça, c'est impressionnant à quel point ça peut être captivant et ça peut faire monter le palpitant.
Ouais, c'est clair.
Voilà, voilà, tu vois ce qu'on vit, nous, tous les hivers, voilà, tu te mets à notre place et
non, en vrai, c'est
pas plus facile. Hein.
C'est est-ce qu'on vivait même avant quand on avait que le data center sur les images?
Ah oui, oh, bah, tout à fait, ouais, c'est presque encore voilà.
Ça, oui, c'était horrible.
Frustrant.
Ouais.
C'est encore bien plus frustrant. Moi, j'avais une dernière question, Valentin. Quel est pour toi le plus grand défi que tu as eu à surmonter durant ta carrière jusqu'ici? Et comment tu l'as abordé, justement?
Alors, je pense que le plus grand défi, ça a été en 2021. J'ai eu une péricardite, donc une infection aux parois du cœur. Et personne n'a réussi à vraiment diagnostiquer ce que j'avais. Donc, on m'a... En fait, ça s'est passé, j'ai eu très mal au cœur à partir de tout début septembre. Et à partir de là, c'était un enfer presque, parce que personne ne savait ce que j'avais réellement, mais moi, en tout cas, j'avais mal au cœur, je le savais bien. Certaines personnes presque ne le croyaient pas, je pense, ou voilà, mais... Donc ouais, ça a été très très difficile, je savais pas du tout ce que j'avais, donc j'imaginais presque le pire, en sachant que je pouvais presque arrêter le biathlon. Donc, une grosse inquiétude de ce point de vue-là. Donc j'ai réussi à revenir après avoir fait l'examen final du cœur, donc l'IRM du cœur,
ouais.
Et qui était bon. Donc à partir de mi-octobre 2021, j'ai pu le reprendre à 100%. Mais c'est vrai que pendant un mois et demi, au milieu de la préparation, je ne savais pas ce que j'avais, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Et donc voilà, ça a été le plus grand défi, c'est sûr et certain. Et ça a été extrêmement compliqué malgré tout. Je n'ai pas réussi à l'aborder d'une bonne façon, je n'arrivais vraiment à rien faire. J'aurais pu travailler mes cours, par exemple, et prendre du repos, mais mentalement, c'était impossible de me concentrer sur autre chose, parce que je ne savais pas ce que j'avais. Ouais. Donc voilà, ouais, ça a été un très gros défi. J'espère que je n'aurai pas à revivre ça. Je suis plus gêné, des fois, j'ai quand même un peu. J'ai encore des douleurs qui persistent à des moments que je n'avais pas avant. Ça revient des fois dans des grandes périodes de fatigue. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui est particulier depuis ce moment-là. Il y a quelque chose à changer dans mon cœur, c'est certain. Personne n'a trouvé quoi, mais moi j'en suis sûr que quelque chose a changé. Donc voilà, moi je pense que c'est dû au vaccin Covid. C'est sûr que c'est dû au vaccin Covid.
Okay.
Mais bon, voilà, en tout cas, affaire à suivre. J'espère que j'aurai pas trop de complications dans le futur. Je ne pense pas, mais. En tout cas, voilà, ouais, c'était un peu de défi.
Ouais, ça suivait en plus une première grosse saison internationale où tu avais pris part aux mondiaux jeunes à Aubercillac.
Voilà, exactement, ouais.
Donc, tu étais dans l'euphorie et après, bah, avec ça, ouais.
T'es dans l'euphorie et boum, c'est vrai que ça m'est tombé dessus du jour au lendemain. Et oui, c'était ma première année à la Fédé aussi, ma première année en équipe de France. Donc, ouais, mais bon, ouais, c'était assez compliqué,
ouais. Ouais. Okay. Cas, on espère que tes soucis sont quand même bien derrière toi et que tu pourras évoluer.
Oui, j'espère aussi. Ouais, j'espère aussi, mais c'est vrai que plusieurs fois par mois, ça revient un peu en tête des fois. Donc voilà, mais j'espère aussi que ça finira par être complètement terminé et que je n'y penserai plus.
Complètement derrière. Ouais.
Okay. Ouais. Bon, on te le souhaite en tout cas.
C'est sûr.
Bien, alors pour terminer, Valentin. Je sais que tu es prêt, tu nous l'as dit, mais on va voir hein, si tu es vraiment prêt. Le petit jeu. D'ailleurs, le petit jeu qui n'a toujours pas de nom, hein, après 4 ans d'existence.
Et qui n'en aura jamais.
Qui n'en aura jamais. Et pour ça, bah, je vais laisser la main à Emery qui va quand même t'expliquer un peu les règles.
Ouais.
Allez.
Ouais, ouais, ouais. Donc, comme avec les précédentes personnes qu'on a accueillies, je vais te poser 5 petits dilemmes entre deux réponses possibles. Tu vas devoir à chaque fois faire un choix. M'expliquer pourquoi tu as fait ce choix plutôt que l'autre. Et si jamais il y a un choix qui est un peu trop compliqué, on te laisse potentiellement le droit à une balle de pioche pour blanchir ses 5 cibles.
Voilà. J'ai presque pas envie de lui donner à Valentin parce qu'il est déjà prêt apparemment.
Il a déjà bossé son truc.
Il a déjà bossé son truc. Il a déjà fait ses réglages. Donc. Bon, on va voir.
Allez, donc c'est parti pour cette première cible. Est-ce que tu es plus, justement, t'es un tir couché ou tir debout?
Bah, si j'étais au début de l'hiver, j'aurais dit tir couché, et à la fin de l'hiver, j'aurais dit tir debout. Mais je vais dire tir couché quand même. Allez, pour avoir un choix, je dirais
okay. Que
j'ai plus de chances de mettre mes statistiques en témoigne, entre guillemets, le meilleur en couché.
On rappelle, donc 89% couché, c'est 76% debout.
Voilà, c'est ça. Ouais. L'objectif, c'était un peu... Enfin, pas vraiment d'objectif, mais je sais que pour faire 90 coupés et 80 debout, ce serait ouais, je serais bien content. Peut-être l'objectif de l'année prochaine, en tout cas. Mais ouais, je prends tir couché, en tout cas.
Et juste question transverse, sur lequel tu trouves être le plus un tir naturel, ton tir couché ou ton tir debout?
Le tir couché aussi, ouais.
Ouais, ok. Ok, ok.
Je maîtrise depuis beaucoup plus longtemps. En tout cas, j'ai réussi à faire beaucoup plus de 5 sur 5 en tir couché qu'en tir debout. J'ai eu vraiment des années très, 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 très compliquées en tir debout.
Voilà, je regarde tes stats en direct là en même temps. Tu as eu une sacrée série quand tu étais en début de saison là, de oui. Plein sur tes tirs couchés. Hein.
Ouais, je suis arrivé.
6 courses sans rater une seule balle.
Je crois que je suis arrivé à la Coupe du Monde avec 95% couché, il me semble.
Ouais. Ah ouais, c'est costaud, c'est costaud. Ok, donc première cible, Blanchi, tiens, justement. On arrive sur la deuxième. Est-ce que tu es plus gros globe de cristal ou médaille d'or olympique?
Médaille d'or olympique, je dirais.
Ouais.
Parce que c'est un événement que tout le monde parle, entre guillemets. C'est vrai que ouais, moi, ça me fait plus rêver d'avoir une médaille olympique. Peut-être une médaille d'or olympique.
Ouais, médaille d'or, ouais.
Médaille d'or olympique. Plutôt que le globe de cristal, même si le globe de cristal, ouais, d'un point de vue...
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. C'est synonyme de bonne régularité, d'être le meilleur biathlète sur une saison. Mais c'est vrai que je pense qu'on retient plus les médailles d'or olympiques que les globes de cristal.
Le grand public, en tout cas, ouais. Tu as bien raison.
Pour le grand public.
C'est vrai.
Ouais, je dirais médaille d'or olympique.
Ok. Donc facilement blanchi encore cette deuxième cible.
D'ailleurs, tu dois avoir l'objectif des Jeux 2030 en vue.
Oui, carrément, ouais. Ça paraît loin, 2030, plus comme ça, mais je vais déjà faire saison après saison. Peut-être que j'irai, peut-être que j'irai pas, peut-être que je gagnerai, peut-être que je ne verrai jamais les Jeux Olympiques, je ne sais pas.
D'ailleurs, je parle de 2030, mais même peut-être 2026, hein, déjà, on ne sait pas comment tu vas évoluer l'année prochaine et même les courses avant les Jeux en 2025-2026, mais il y a toujours une probabilité aussi que tu les fasses, cela.
Il y a une probabilité, ouais, tout à fait, ouais, carrément. Après, ouais, c'est ça, je veux prendre 6 ans après saison, je n'y pense pas trop, en vrai. Je ne pense même pas du tout.
Pas se prendre la tête.
J'ai vu qu'ils étaient en France en 2030, c'est chouette. Le fait qu'ils soient en France, ça prend une dimension un peu plus importante. Mais voilà, ouais, en tout cas, j'y pense pas, en vrai. Des fois, je rêve de choses dans la nuit, mais encore les Jeux Olympiques, pour l'instant, je ne les ai même pas en tête, c'est vrai.
Ouais. Bah, t'avais pas cette sélection de rappelling en tête, donc tu vois, ça marche plutôt bien. Donc,
Ouais, voilà, carrément.
T'as raison d'y aller étape par étape, c'est très bien. C'est très bien. Alors, troisième cible, est-ce que tu es plus lire un bon livre ou regarder de bonnes séries?
Lire un bon livre. Ouais. De toute façon, j'ai pas Netflix, j'ai pas grand chose pour regarder les séries, donc...
Ouais, tu squattes pas les comptes des autres?
Non, même pas, ouais.
Et tu lis quoi, tiens, en ce moment? Peut-être est-ce que t'as un livre à conseiller que t'as lu il y a quelques temps?
Un livre à conseiller, j'aimais bien celui de Mike Horn, Vouloir toucher les étoiles.
D'accord.
Ouais, voilà, c'est un livre okay. que j'aime bien.
Plutôt, c'est un gros livre pour les gens pour...
Ouais, c'est un gros... Non, il se lit bien, franchement.
Il se lit bien
ouais,
ok.
Ouais.
Bon, bah, n'hésitez pas alors. Mike Horn.
Mike Horn, voilà.
Allez, plus que deux cibles à abattre et puis on sera au bout. Est-ce que tu es plus ski ou tir?
Ski. Ouais.
Ouais.
Sans hésitation. Même à l'entraînement, je préfère beaucoup plus skier que tirer. Ouais.
Ok. Non,
ski sans hésitation. J'ai même pas besoin de réfléchir.
Tu prends plus de plaisir à aller faire une sortie à ski qu'à aller faire une sortie. Enfin, peut-être un entraînement de tir.
Ouais, certainement. Après, tout dépend des conditions aussi de ski. Mais.
Ouais, s'il pleut comme pas possible, il fait moins 10.
Des jeux de tir en stage, C'est vrai que c'est, ouais, c'est sympa, ça change et c'est quelque chose auquel on prend beaucoup de plaisir. Mais malgré tout, je fais du biathlon parce que de base, je fais du ski, je pense. Je viens pas du tir, c'est vrai que je sais pas s'il y a des biathlètes qui viennent du tir, je pense pas.
Ouais, non, ils doivent pas être, ça doit pas courir les rues.
Non, ça doit pas courir les rues.
Ok, bon bah parfait, il reste plus qu'une balle pour aller faire un nouveau 5 sur 5, hein, tiens. Et celle-là, par contre, elle est très dure, hein, Romain.
Ah oui, ah, la plus redoutée.
Bah, elle racine, est redoutée par tout le monde, ouais.
Elle ou pas mal de biathlètes, hein.
Ouais. Alors, est-ce que tu es plus raclette ou tartiflette?
Raclette ou tartiflette,
c'est dur, hein.
Ah, j'ai pas mangé de raclette depuis très longtemps, je crois. Contrairement aux tartiflettes.
Donc, du coup, tartiflette, tartiflette. Ah.
Ouais, tartiflette, ouais.
Mmh. Ouais,
tartiflette. Ouais, je préfère même.
Vous n'êtes pas beaucoup, n'empêche, à choisir tartiflette, hein.
Mmh. Ah ouais, ok.
Ouais, parce que je tiens quand même un tableau avec, avec la répartition raclette-tartiflette. Il y a 5 votes contre 3 pour raclette-tartiflette. Puis après, on a fait des... On a un peu fait des digressions, on est allé sur du reblochon, veste, tartiflette et tout. Mais le duel raclette-tartiflette, pour le moment, c'est la raclette qui gagne. Hein.
Ah ok, bah, je vais essayer de faire remonter la tartiflette. Hein.
Mmh. Tu es du coup dans la team Jeanne et Océane. Vous pourrez faire la propagande pour la tartiflette, tous les trois. Eh ben parfait, hein. Du coup, tu as blanchi ces 5 cibles. Hein. Tu
peux partir... La balle de pioche, j'en avais pas besoin, il n'y avait pas une 6ème cible.
Non, il n'y a pas de sixième cible, pas de sixième cible. On reste encore sur les règles du biathlon actuel. C'est parfait.
Peut-être dans les prochaines années, il y aura peut-être une sixième cible. On ne sait pas ce que peut nous faire les bilus, mais
pour le moment, on fera des.
On reste sur 5 cibles. Hein.
Ou on fera des marathons, tu sais, comme ils font maintenant en Russie. Là, j'ai vu.
Ouais. 40 km, je crois, ils faisaient.
Ouais, 40 km les mecs et 30 les bilus. Qu'est-ce que t'en dirais, tiens, toi, Valentin, de faire un 40 km avec 8 tirs?
40 km avec 8 tirs, ah, ça serait chouette, hein.
Ouais.
Ouais, ça serait.
Bah, vu que t'aimes bien skier, ça te ferait encore plus de ski.
Mais peut-être pas sur une piste de biathlon, parce que 40 km sur une piste de biathlon, une piste, je sais pas, la piste, des pistes dures, comme Oberhof par exemple, je pense que ça serait très, 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 très long, avec des bonnes conditions comme Oberhof, ça serait encore plus long.
10 fois une boucle de 4 km, oh là là.
Ah ouais, ouais.
Tu sens quand même, c'est en cache, quoi.
Au dernier tir, les chances de mettre 5 balles sont assez limitées.
Ah ouais, c'est quelque chose.
Bon, après, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir ce format sur la Coupe du Monde. Hein. Déjà que j'ai vu les cartes petit à petit individuel de 20 km. Alors, si c'est pour mettre un 40 km, je pense que.
Ouais, c'est pas demain la veille.
C'est pas demain la veille, exactement.
Voilà. Bon, bah, en tout cas, bravo, Valentin, pour ton 5 sur 5.
Eh ben, merci beaucoup.
Voilà. Merci, Mike, pour ces.
Eh ben de rien.
Valentin, petite dernière question pour terminer. Alors on en est encore loin, hein, la saison prochaine, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'hiver à venir?
De retourner en IBU. Et puis cette fois-ci, j'aimerais aller titiller un peu plus proche les Norvégiens. Et ouais, voilà, hein, c'est ça. Je suis plus junior maintenant, donc c'est vrai que c'est un petit cap à passer. Je peux pas me reposer sur la Junior Cup. Donc voilà, l'objectif c'est IBU, championnat d'Europe. Du coup, ma médaille au championnat d'Europe. Et puis voilà, je pense pas trop à la Coupe du Monde, j'en ai fait une apparition, mais si j'ai le niveau pour y retourner, j'ai nul doute que j'y retournerai. Mais le but, c'est déjà d'augmenter le niveau. Et voilà, mais déjà de l'IBU, je serais satisfait d'aller en IBU et de performer là-bas.
Ok, bon, en tout cas, si la Coupe du Monde, voilà, ça viendra au moment opportun, quand tu auras fait ce qu'il faudra sur l'IBU Cup. Et, bon, en tout cas, c'est...
Le plaisir avant tout.
Le plaisir avant tout, exactement.
Eh oui.
Mais non, en tout cas, merci Valentin d'avoir été
avec nous
cette dernière heure. C'est vraiment très sympa.
Ouais, ouais, très cool.
Plaisir partagé.
Et moi, j'ai juste un petit mot à rajouter. Pour les gens qui ont acheté le fameux calendrier Biathlon Live, si vous regardez bien le mois d'avril, vous verrez quelqu'un avec qui on est en train de parler, qui est présent sur la photo du mois d'avril.
Ouh là là, d'accord.
Il y a notamment Damien Levet, Théo Guiropoyo et un certain Valentin Lejeune.
Valentin Lejeune, voilà.
Ah voilà.
Voilà.
Ah bah nickel.
Comme c'est pas au hasard, tu vois, mois d'avril, Valentin est là, il est présent sur notre calendrier.
Voilà. Tout est calculé depuis
les planètes s'alignent.
Donc les prochains, on peut déjà peut-être deviner leur nom.
Bah, je crois qu'on devrait avoir en mai Anna Heuberg et en juin Dorothée Aviller.
Ah, parfait.
Bon, on met un peu juillet, la boîte, là, Valentin.
Ah, c'est mieux, juillet, on pourra avoir les frères et sœurs Guigona.
Ah. Avec Cyril Burdet, ouais.
Notamment ouais, avec Cyril.
Ah bah nickel.
Ouais. Et on vous annonce Lisa Vitozzi, Julia Simon en novembre, il me semble. Donc voilà, ça va être...
Ah oui,
un beau programme pour notre podcast avec des très beaux invités. Mais en tout cas, encore merci, Valentin. C'était super sympa de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir échanger, de t'apprendre à te connaître un peu plus. Je suis sûr que ça, voilà, ça fait plaisir à nos auditeurs de pouvoir te connaître un petit peu plus. Merci, Aymeric.
Bah, merci à tous les deux, hein, Valentin. C'était super d'avoir passé cette heure avec toi. C'était très cool et très enrichissant d'apprendre à te connaître.
Bah, oui. Merci à vous, surtout.
On souhaite du bon repos, une bonne préparation déjà, hein, qui va démarrer dans un bon mois. Dans les rangs de bas, déjà tout seul, dans un premier temps, et après dans les rangs de l'équipe de France B, logiquement, hein, si il n'y a pas de
logiquement,
surprise.
Logiquement, c'est ça, oui, on verra bien. Oui, tout à fait.
Voilà, on va suivre ça avec attention, cette longue préparation jusqu'à l'hiver à venir. Donc voilà, de belles choses. Donc, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Encore merci à tous. N'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, hein, aussi à réagir à cet épisode avec Valentin. Encore merci à tous, encore merci Valentin. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Salut tout le monde.
Ciao, ciao.
Salut.